Elle est une des rares morning women en radio parlée au Québec. Native de Jonquière, voici Catherine Gaudreau.
C'est elle-même qui nous a demandé ce thème de présentation, parce que tout le monde le sait, Catherine Gaudreau adore aller dans les raves.
Oui, ah, oui, exactement.
On se souvient, elle s'aligner dans Manque pas un. Hein? Oh là là.
J'en manquais pas un. Tu m'accompagnais régulièrement, Richard, d'ailleurs, je me souviens.
Ben oui,
très bien.
Ben oui,
oui, ben oui. Ben oui. Oui.
Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est que as-tu sorti beaucoup sur la Saint-Dô si tu viens de Jonquière?
Ben oui, c'est sûr que j'ai sorti beaucoup sur la Saint-Dô. J'ai eu cette période de ma vie. Alors oui, je ne peux renier mon passé quand même. Là.
Bon, mais sans farce, les raves, je pense pas. En tout cas,
non.
On s'est côtoyés pendant de nombreuses années. Je n'ai pas ça dans mes souvenirs. J'ai pas.
Non, non.
Tu sais, un matin, je me suis levé, c'était pas marqué. Vous avez un souvenir avec Catherine Gaudreau?
Non.
Puis,
ça viendra peut-être, je sais pas, mais je m'en souviens pas.
C'est en train d'absorber une méthamphétamine, mais en se mettant du Vicks. Hey boy! Non, non, c'est ça que je vous dis. Ça arrivera pas, c'est jamais arrivé.
Des glow sticks un peu partout.
Bon, on va reprendre.
Comment faire une entrée sérieuse?
Hey, mon Dieu, OK. On peut même pas dire qu'il est passé 5 heures.
Il est pas passé 5
heures.
Non,
c'est pas la défaite.
Non, mais c'est peut-être la jeune Leila Fernandez qui nous étourdit, la Québécoise, qui est présentement en quart de finale, qui a gagné la première manche contre Elina Svitolina. Elle a gagné la première manche 6-3. Elle a perdu la deuxième manche 6-3. Puis là, on est à combien? C'est 1-0?
C'est 1-0 ouais. Pour Leila.
Bon, oui, parce que tu suis ça en même temps. Et tu voulais nous parler, Catherine, de ce bonheur contagieux qu'ont certaines joueuses, certains joueurs, à littéralement embrasser leur sport, à aimer leur sport.
Oui, exactement. Et c'est ce qui me fascine chez elle, parce qu'au-delà évidemment de la performance sportive, c'est exceptionnel ce qu'elle est en train d'accomplir là, d'être en quart de finale au US Open. Personne s'attendait à ça. Mais ça arrive parce qu'il y en a d'autres des joueurs qui actuellement performent très bien, des jeunes qui poussent. Mais moi, c'est son bonheur, son sourire, son charisme, le fait d'aimer d'être là, de soulever la foule, justement avec ce plaisir-là. Et à chaque fois que je la vois, je me dis « wow, c'est ça le sport ». Parce que, tu sais, ça demeure jouer au tennis, jouer au hockey, jouer au basketball. Évidemment, on est dans le sport d'élite, tu sais, tu compétitionnes, tu veux progresser, tu vises le top, ça je peux comprendre. Mais tu sais, Richard, t'es bien placé pour nous en parler. T'as connu aussi avec ton garçon, donc tu sais, d'être dans le tennis de haut niveau. Donc,
ton garçon joue au tennis?
J'ai un garçon qui joue au tennis, moi.
Je me souviens pas de ça, moi.
Non, tu nous l'apprends.
Non, mais...
Oui.
Non, mais tu sais, puis je sais, Alexandra, tu parlais la semaine dernière, t'as fait du sport. Tu sais, le sport, c'est supposé d'être ça au départ, d'avoir du plaisir à le faire. Pourquoi on a tant aimé Cole Caulfield en série? Au-delà du parcours du Canadien, le jeune, il a un sourire d'en face, il est heureux comme... C'est ça le sport.
Mm-hmm. Même Kotkaniemi qui est parti, pas tout le temps, mais des fois, on le regardait, puis tu sais, surtout quand il comptait des buts, là, mais c'est pas arrivé souvent. Mais tu sais, je veux dire, on le voyait arriver, on le regarde le jeune, mais c'est vrai, Cole Caulfield, là, son sourire, là, c'est dans nos plus beaux souvenirs, puis on va regarder ça pendant des années, là.
Exactement. Puis tu sais, je fais un parallèle inverse avec Nick Kyrgios, qui est un joueur australien. Kyrgios, il a jamais l'air de bonne humeur, il a toujours l'air en maudit, il a pas l'air à aimer pratiquer son sport. Des fois, je me dis, pourquoi t'es là? Tu sais, t'as-tu du fun à le faire? T'es supposé au départ d'avoir du plaisir. Mais il y a des joueurs, tu les regardes, tu fais... Tu sais, je comprends que la personnalité, il y en a qui sont plus introvertis, ça va. Mais la jeune, elle a du plaisir. Elle, là, elle vit probablement les moments de sa vie, mais elle est souriante, puis elle profite du moment présent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Juste pour ça, c'est beau de l'avoir allé.
Et voilà. On va parler un petit peu de ces écoles qui ont détruit 5000 livres jugés néfastes aux Autochtones, dont Tintin et Astérix, qui ont été jetés. Certains ont été brûlés, comme dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Exact.
Qui raconte justement l'histoire d'un régime totalitaire. Je veux qu'on écoute Justin. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Catherine, mais peut-être ça vient de rentrer. On va écouter Justin Trudeau là-dessus.
À un niveau personnel, je suis jamais d'accord à ce qu'on brûle les livres. Mais il faut aussi se souvenir que c'est pas à moi, c'est pas aux non-Autochtones de dire aux Autochtones comment ils devraient se sentir ou comment ils devraient agir pour avancer la réconciliation. Nous devons démontrer une compréhension.
Ouais, Justin encore, on devrait pas leur dire comment agir. Ouais, mais on peut quand même émettre une opinion là-dessus. Quand on est rendu à brûler des livres, Catherine, ça va loin.
Ah, ça va très loin. Donc, est-ce que je comprends que M. Trudeau est en train de nous dire que une partie de la solution, c'est de brûler des livres?
Ben, c'est ce que j'entends.
C'est pas comme ça qu'il nous le dit, là, mais... Donc, c'est pas grave de brûler des livres. Alors, brûlons des livres. Ben, dans le fond, rendu là, savez-vous quoi? On va tout brûler. Brûlons tous les livres, comme ça, dans 20 ans, dans 40 ans, ben, on n'aura pas besoin de se justifier sur rien. Au lieu d'expliquer le contexte dans lequel ces livres-là ont été écrits et de replacer le contexte, puis d'éduquer, puis d'instruire, ben, on brûle. On va brûler comme ça, puis personne va nous en reparler. Je trouve ça épouvantable. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça.
Mm-hmm.
J'en revenais pas ce matin. Je me disais, ben voyons, c'est une blague. Et le meilleur exemple, c'est entre autres une des auteurs qui a vu ses livres être brûlés. Elle s'appelle Sylvie Brien. Elle a écrit le roman jeunesse L'affaire du collège indien. Cette femme-là a été demandée. Elle est allée à la rencontre des jeunes dans les écoles, dans des écoles autochtones pour parler de son livre. Elle a été encensée. Et aujourd'hui, elle apprend que son livre a été brûlé. Mais attendez, là. Oui, dans mon livre, je parle des Esquimaux. Je parle des termes racistes utilisés à l'époque, les sauvages. Je parle de ça. Je replace et j'explique à quel point c'était épouvantable. À la fin de mon livre, t'as le goût d'aller embrasser les Autochtones parce que c'est terrible ce qu'on leur a fait vivre. Mais elle dit, c'est clair qu'ils ont pas lu mon livre. C'est sûr qu'ils ont pas lu mon livre avant de le brûler. Ils ont rien compris. Mais... Alors, tu vois, je trouve ça d'une tristesse épouvantable.
Et je trouve aussi le pire dans toute cette histoire-là, c'est que la genre de commission scolaire, qu'on va l'appeler, là, qui a décidé de brûler ces livres-là, c'est une genre d'organisation, c'est religieux, là, on s'entend, là?
Oui.
C'est religieux.
Oui.
Puis j'ai l'impression que c'est une genre de manière de cette gang-là de vouloir comme s'excuser du passé ou se soustraire au passé des pensionnats autochtones. On se dit, bon, on se sent mal avec tout aussi l'histoire, tout ce qui est sorti dans les médias dernièrement. On sent comme mal de ce qui s'est passé. Fait qu'on va tout brûler ça. Fait que ça va faire comme si on s'était racheté auprès de la communauté au lieu de vraiment aller vers le problème, le réel problème. Parce qu'on n'a pas réglé le vrai problème sous-jacent. On a fait semblant.
Absolument pas. Absolument pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, au lieu de dire, bon, mais maintenant, voici ce qui s'est passé. Et en effet, c'est à dénoncer. Et il faut justement pas oublier ce qui s'est passé pour ne pas jamais reproduire ce qui s'en vient. Mais non, on préfère, on va tout brûler. Brûlons tout, puis oublions. J'en viens pas des propos de Justin Trudeau.
Non, c'est non plus.
À ne pas vouloir expliquer les choses et à pas vouloir se positionner, il fait pire. Pour moi, là, ce commentaire-là n'aide absolument pas la cause autochtone.
Oui. Et il dit, ils réagiront de la façon qu'ils veulent. Oui, mais attends, tu sais, je veux dire, là, brûler des livres, c'est pas illégal, mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même leur faire savoir que ça n'a pas de bon sens, là.
Absolument.
Je comprends qu'ils ont à gérer leur peine eux-mêmes ou effectivement, et à trouver des solutions. Mais là, de leur dire, ben gars, faites ce que vous voulez, gérez votre colère comme vous le voulez. Moi, je suis pas d'accord avec cette portion du commentaire.
Non, je te suis là-dedans.
Bon, hey, je trouve que là, les filles ont pris le contrôle, là. Max, ce matin, Dominique Gagnon, qui est candidat à la mairie de Saguenay, veut s'inspirer de l'immense succès de l'amphithéâtre Cogeco. Puis Maxime, c'est le néophyte là-dedans. Et lui, tu sais, je dis, il veut savoir c'est quoi l'amphithéâtre
Cogeco. J'ai déjà entendu parler de l'amphithéâtre Cogeco. Uh-huh. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de me présenter. Puis ce midi, on en parlait dans Midi Pile. Puis les gens nous demandaient un peu à quoi ça ressemble. Parce que ce qu'on veut créer, c'est à la zone portuaire, la place Robert-Hakim. Donc, un peu comme l'amphithéâtre Cogeco, on pourra aller voir des spectacles. On voudrait accueillir près de 15 000 personnes là-bas. Mais c'est quoi l'amphithéâtre Cogeco, Catherine? Parce que je sais qu'il y a une partie qu'on peut être assis. On a l'impression qu'on est en dedans. Mais il y a une partie sur la pelouse aussi. Si je me trompe pas.
Oui, exact. Donc, oui, il y a l'espace gazonné pour accueillir de plus grands spectacles. Mais en effet, donc, vous avez un amphithéâtre qui, nous, est sur le bord du fleuve. Et donc, l'enceinte est extérieure. Alors, d'une certaine façon, tu es assis. Quand je dis dehors, tu es protégé parce qu'il y a une grande. Évidemment, le toit est immense. Alors, tu sais, vous ne faites pas mouiller dessus, là, je vous rassure, là. Mais on est quand même à l'extérieur. Alors, c'est une première. Cette configuration-là, moi, je l'ai jamais vu ailleurs, là. Je dirais au Canada, en Amérique du Nord, je me lancerai pas, là. Mais donc, c'est un amphithéâtre qui l'hiver va servir à l'intérieur en format cabaret. Vous comprendrez qu'on n'est pas là à moins 26 au mois de février, là. Mais bon, il y a une période dans l'année, les spectacles ont lieu jusqu'au début octobre. Mais l'amphithéâtre Cogeco nous a permis d'avoir notamment le Cirque du Soleil Et tu sais, jamais sans l'amphithéâtre Cogeco, on aurait pu recevoir Céline Dion à deux reprises. Parce qu'évidemment, tu as des spectacles de grande envergure. Il y a des artistes qui actuellement ne viendraient pas à Trois-Rivières si on n'avait pas cet amphithéâtre-là. Mm-hmm. Et vous méritez la même chose. Est-ce que Saguenay mérite la même chose? Absolument. Mm-hmm. Vous avez un endroit idéal. Et je suis tout à fait d'accord. Allez-y, go! Nous, ça nous a amené du tourisme. L'amphithéâtre Cogeco amène aujourd'hui des touristes qui viennent voir des spectacles. Ils viennent pour ça à Trois-Rivières. Puis après ça, ils font le tour. Vous méritez ça amplement.
Et Catherine, ça a redynamisé le centre-ville. Et tous les deux, quand on est arrivé en 2013, le centre-ville, c'était mort. Puis même, il y avait des détracteurs, et on en était, qui disaient « Oh, ça va être un éléphant blanc, mais le maire Lévesque aura gagné son pari. » Et la prochaine question est la suivante, parce qu'on entend le même discours ici à Saguenay. Mme Néron nous dit « Ah, vous allez voir, avec un amphithéâtre multifonctionnel de 100 millions, on parle d'un nouvel aréna là, pour les